Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, quatrième épisode de cette série dans ce temps de déconfinement progressif dans notre pays. Au micro pour intervenant, Monseigneur Bernard Ginoux, ravi de vous retrouver, Monseigneur.
Moi aussi, Nathalie, ainsi que les auditeurs qui nous suivent fidèlement.
Alors, nous parlons de déconfinement, tout doucement. Nous revenons aussi sur cette crise sanitaire planétaire, une épidémie douloureuse qui générait de l'angoisse et beaucoup de peur. Il y a aussi votre parole de pasteur pour faire entrer nos amis auditeurs dans la confiance et dans l'espérance. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Au programme aujourd'hui, parlons de cette crise, non pas sanitaire, permettez-moi, Monseigneur, mais derrière cette crise sanitaire, pourrions-nous ouvrir un volet un peu spirituel ? N'y aurait-il pas aussi une grande crise spirituelle que l'Église traverse aujourd'hui ? Que nous dit cette crise sanitaire de cette crise spirituelle que traverse l'Église ?
Sans aucun doute, l'Église catholique traverse, comme beaucoup d'autres institutions, une crise humaine. Une crise humaine et qui se traduit aussi par une crise dans l'ordre de la foi. Ceci est dû à de nombreux facteurs. Nous ne sommes pas ici pour en faire de l'analyse. Nous n'en avons ni le temps ni les moyens. Mais nous pouvons nous rappeler aujourd'hui, 14 mai, que le pape François nous a invités au jeûne et à la prière pour que nous retrouvions le chemin de l'espérance, particulièrement face à ce virus, face à la dislocation de certaines de nos habitudes, de nos manières de faire, et donc de nous remettre en question dans la confiance en Dieu. C'est fait avec d'autres religions comme l'islam, dans le courant de Al-Azhar au Caire, et c'est un appel général. Donc nous y sommes très sensibles et nous le suivons, mais parler de crise est aussi parler de quelque chose qui va en sortir. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'espérance. Je suis tout à fait confiant que cette crise va faire naître quelque chose de plus important. Nous savons bien que l'Église a les paroles de la vie éternelle et que le Christ ne nous abandonne pas. C'est peut-être le moment de revoir nos habitudes, de revoir si nous sommes vraiment chrétiens ou si nous ne le sommes que de façade. Quand des fidèles n'ont pas hâte de retrouver la participation à la messe, je peux me demander s'ils sont réellement fidèles. Car, encore une fois, la messe retransmise n'est pas la participation à l'Eucharistie dans sa réalité. C'est un palliatif, je le disais hier, je le dis encore aujourd'hui, mais ce n'est pas la participation à la messe, ce n'est pas la communion au corps du Christ. Alors, bien sûr, nous avons à le faire, et je suis le premier, mais nous avons à en remettre en question notre foi en l'Eucharistie, la manière dont nous la recevons, la manière dont nous nous y préparons par le sacrement du pardon, la confession. On a glosé, on a ri même de nos ancêtres qui ne communiaient qu'une fois l'an parce qu'ils ne se confessaient qu'une fois l'an, puisque l'Église les y obligeait, mais elle les y oblige toujours. Mais c'était peut-être plus solide que de recevoir l'Eucharistie comme je prends un chocolat au temps de Noël ou de Pâques. Et il y a là aussi une réflexion et une attitude à corriger, de la même manière vis-à-vis de la parole de Dieu, comment elle est lue, comment elle est pratiquée. Donc tout cela, nos communautés catholiques doivent le remettre en question avec l'aide des pasteurs que nous sommes pour être davantage fidèles, sans compter que l'Eucharistie est liée au partage de nos biens avec les plus démunis, les plus pauvres, à l'accueil de ceux qui n'ont pas de logement. Ainsi de suite, il y a eu des confinés très heureux avec jardin et maintenant avec les beaux jours, piscine et grande maison. Et puis les autres qui n'avaient rien. Quel partage allons-nous faire maintenant de tout cela ? Est-ce que nous sommes tranquillement installés dans nos maisons en disant « je l'ai gagné, c'est à moi » ou est-ce que nous ouvrons largement notre cœur aux misères que nous allons connaître très fortement ? Qu'allons-nous partager ? nous n'emporterons rien avec nous dans le royaume de Dieu. Donc les temps nouveaux, c'est cela. C'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et l'inverse, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.
Quelles sont les bonnes questions après cette période de pandémie, loin de la vie sacramentelle, ce moment où nous allons faire ce retour vers les sacrements, comment s'y préparer? Passer par la case confession avant de recevoir le corps du Christ, Monseigneur Ginoux, nous préparons dans quelques jours, voire quelques semaines, à réintégrer un petit peu nos églises pour célébrer à nouveau, non plus virtuellement, mais dans ce mystère de l'incarnation, l'Eucharistie. Comment s'y préparer pour éviter toute communion sacrilège, permettez-moi.
Nous ne pouvons pas juger le cœur de chacun, mais nous devons proposer le chemin de la conversion, qui est effectivement l'occasion de rencontrer un prêtre avec les distances nécessaires, mais nous avons de grands espaces parfois, ne serait-ce que nos églises ou nos salles paroissiales. Donc, avec un masque et les distances nécessaires, tout le monde peut aller se confesser. Et surtout, penser que c'est le moment de faire ses Pâques, c'est ce que tradition d'heureuse de se confesser et de communier au temps pascal. Donc, se préparer à nouveau à cette communion que nous pouvons faire pour la Pentecôte, qui est l'accomplissement du temps pascal. Donc la confession, la préparation du cœur, et aussi nous interroger sur la place de l'Eucharistie. Nous pouvons aller adorer dans les églises. J'ai demandé au prêtre, le dimanche de 10h à midi, après avoir célébré la messe en privé, d'exposer le Saint-Sacrement. Chacun peut aller, pour un temps, y prier, et vénérer la Sainte Eucharistie. Tout cela sont des choses simples dont nous devons nous demander ce qu'elles représentent dans notre vie. Si nous sommes attachés à l'Eucharistie, si nous sommes attachés au sacrement du pardon, si notre prière se transforme en action pour les autres, non pas de faire des gentillesses à sa voisine, tout le monde fait ça. Les païens eux-mêmes, dit Jésus, en font autant. Mais ce qui est propre à nous, fidèles du Christ, le pardon inconditionnel, le partage avec ceux qui n'ont rien, sans attendre d'autres récompenses que leur bonheur, et même, s'ils ne le veulent pas, sans attendre d'autres récompenses que ce partage du surplus que nous avons, même pas du nécessaire, mais du surplus. Et pourtant, le Christ montre l'obole de la veuve qui partage son nécessaire. Ainsi donc, ce sont des manières de vivre en chrétien, en témoin du Christ. Nous les avons souvent mises de côté. Nous avons souvent suivi la messe par nonchalance et habitude. D'ailleurs, si nous nous en sommes séparés, c'est parce que nous pensions qu'elle ne nous apportait plus rien. Ce qui est proprement inconcevable. Comment le Christ pourrait-il ne rien nous apporter? Comment le corps du Christ ne pourrait-il pas nous nourrir? Comment ne pourrait-il pas être au-delà de toute maladie, de tout virus, de toute contagion, puisqu'il est le Seigneur de la vie?
S'il fallait faire en quelques minutes, très vite, Monseigneur Ginoux, dans ce quatrième entretien et ces 2-3 minutes qu'il nous reste, une relecture très, très rapide de cette pandémie qui nous a un temps éloignés des sacrements comme l'Eucharistie et la confession, une manière de jeûner pour, après ce jeûne, retrouver un élan vrai, sincère, nouveau pour vivre de nouveau de ces sacrements. Temps de purification pour les chrétiens.
Je n'aime pas l'expression « jeûner » à ce propos. Jeûner, c'est s'abstenir volontairement de nourriture pour un bien supérieur. Or, le jeûne eucharistique a toujours été le temps nécessaire avant l'Eucharistie où nous n'absorbons pas de nourriture. Mais ce n'est pas de manquer de l'Eucharistie. Quelqu'un qui est affamé, il ne jeûne pas, il souffre de la faim. Or, nous avons souffert de la faim. Je parle des fidèles. Nous avons souffert
donc,
de la faim.
Donc, de privation.
Eucharistique, c'est une privation. C'est un manque. C'est une privation involontaire.
Permettez-moi, permis par Dieu, pour corriger.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Ce que je sais, c'est que Dieu tire toujours un bien d'un mal. Donc, la question, ce n'est pas de s'interroger sur savoir si ceci pourrait être un châtiment de Dieu, si c'est permis par Dieu, si c'est voulu par Dieu. Ces questions n'ont pas de sens. La seule question, c'est que veut dire cet événement? Que signifie-t-il pour moi, pour la société? À mes yeux, il veut dire que je ne peux pas vivre sans le Christ. Il me rappelle que le Christ est vainqueur de la mort. Il me rappelle que je peux dépasser mes peurs, mes inquiétudes, par la foi. Et il me dit que ceux qui ont été victimes et qui sont morts de cette pandémie, je peux les confier au Seigneur pour qu'il les accueille dans la paix de son royaume et pour cela faire dire des messes, prier et faire en sorte que lorsque viendra mon chemin aussi vers le ciel, lorsque viendra mon tour de quitter cette terre, je sois prêt à passer sur l'autre rive. C'est bien cela, accueillir le salut qui vient du Christ et qui est déjà donné par mon baptême, ce salut qui est en moi et que j'ai à laisser grandir par les sacrements, la prière, la parole de Dieu.
Donc temps aussi favorable pour un temps de conversion.
Bien sûr.
Pour être préparé à ce passage
pour aller
en vue
à l'essentiel.
De ce salut éternel.
Pour aller à l'essentiel et pour faire le tri dans ma vie. C'est un temps essentiel pour cela.
Temps de discernement, pour
oui.
faire des choix et prendre les bonnes décisions.
Oui.
Monseigneur Bernard Ginoux, merci de votre intervention du jour et on vous retrouve en cette semaine de déconfinement progressif, demain à la même heure. Merci beaucoup.
Entendu et à demain.